question pour vous. Est-ce que Dieu a rejeté le peuple d'Israël? La parole de Dieu va nous donner une réponse claire et précise aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Aujourd'hui, on a plusieurs questions qui concernent le peuple d'Israël. Ces choses m'intéressent énormément, parce que j'ai toujours eu des amis qui sont du peuple d'Israël. J'aime beaucoup ces amis, et j'aime connaître les plans de Dieu pour eux. Alors voici nos questions. Est-ce que Dieu a encore des projets pour la nation d'Israël? Est-ce qu'il a rejeté son peuple? Est-ce que n'importe qui peut obtenir la miséricorde de Dieu? Quels sont les éléments qui identifient les Israélites? Est-ce que la nation d'Israël a déjà connu la présence visible de Dieu? Y a-t-il des églises aujourd'hui qui ont la présence visible de Dieu? Comment est-ce qu'on peut être adopté par Dieu? Qu'est-ce qui confirme qu'une personne est un enfant de Dieu? Demeurez à l'écoute, le pasteur Régent Joly a ouvert sa Bible et il est sur le point de nous donner toutes les réponses qu'elle nous donne bien clairement. Mais premièrement, prions. Seigneur mon Dieu, on vient dans ta présence. On sait qu'on s'adresse au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. On te remercie d'être miséricordieux et d'entendre les prières de tes enfants. Enseigne-nous aujourd'hui, mon Dieu. Enseigne-nous ta belle parole. Aide-nous à la comprendre, à la méditer, à la mettre en pratique. On compte sur toi, Seigneur, sur toi seul. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. À la dernière émission, nous avons terminé l'étude du chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Dans ce chapitre, nous avons vu que c'est par l'Esprit de Dieu qui habite en nous que nous pouvons vaincre les désirs de la chair. Il y a une inimitié entre la chair et l'Esprit de Dieu. Nous ne pouvons pas à la fois chercher à plaire à la chair et à plaire à Dieu. Nous avons aussi vu que la terre entière soupire et gémit en attendant sa rédemption. De plus, nous avons appris que l'Esprit de Dieu intercède pour nous, car nous ne savons pas toujours quoi demander dans nos prières. Finalement, rien, absolument rien, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous entreprenons l'étude du chapitre 9. C'est la deuxième section majeure de l'Épître aux Romains. Romains, chapitre 1 à chapitre 8, nous présente la doctrine. Romains 9 à chapitre 11 traite les différentes économies du royaume de Dieu, et Romains, chapitre 9 à chapitre 11, traite des différentes économies du royaume de Dieu. Et Romains, chapitre 12 à chapitre 16, parle du devoir des croyants. Les huit premiers chapitres mettent l'accent sur la foi, les chapitres 9 à 11 sur l'espérance, et les cinq derniers chapitres sur l'amour. Voici une autre façon de présenter l'Épître aux Romains. La première section traite du salut, la deuxième de la ségrégation et la troisième du service chrétien. Paul a terminé les huit premiers chapitres de l'Épître et il a placé le salut sur une base très large parce que l'humanité entière est perdue. Rappelez-vous ce verset de Romains chapitre 3, verset 23. « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Dieu a rendu le salut accessible à tous sur une seule base, la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, Paul est prêt à aborder la deuxième division de cette lettre importante. Les chapitres 9, 10 et 11 cadrent avec la logique et la doctrine de l'Épître. Certains ont essayé de ne pas prendre cette section au sérieux, en affirmant que c'était un appendice. D'autres ont minimisé son importance en la considérant comme une parenthèse qui n'est pas si pertinente que cela. Cependant, non seulement cette section est-elle pertinente, mais elle cadre dans la logique et la doctrine de cette lettre. D'une certaine façon, les chapitres 8 et 12 pourraient être rattachés comme on rattache deux wagons de train. Mais Paul ne construisait pas un train lorsqu'il a rédigé son épître. L'épître aux Romains n'est pas un train, mais plutôt une rivière qui coule. Vous ne pouvez pas plus retirer les chapitres 9 à 11 du livre que vous pouvez ôter une section du fleuve Saint-Laurent sans provoquer un désastre. Les trois chapitres font partie intégrante de l'épître et ils sont essentiels pour son interprétation. Un élément psychologique, un élément historique et un élément doctrinal révèlent l'importance de cette section. Paul répand son cœur au chapitre 9. Le facteur psychologique concerne l'expérience personnelle de l'apôtre Paul. Ceux qui affirment que l'épître aux Romains sort de la tête de Paul, alors que l'épître aux Galates est tirée de son cœur, n'ont pas entièrement raison. Paul répand son cœur au chapitre 9, ainsi que dans toute la section. Il y a un fossé entre le chapitre 8 qui se termine sur une note de triomphe et de joie, alors que Paul enseigne que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifestant Jésus-Christ. Le chapitre 9 est l'expression d'un cœur qui souffre, et cela est dû au changement de sujet. Vous observerez cela lorsque nous aborderons l'étude du texte. Le facteur historique tient compte d'une situation et d'un problème unique à l'époque de Paul. Les interprétations contemporaines négligent souvent cet aspect historique. L'Église, de nos jours, est formée surtout de non-juifs, et son arrière-plan, juif, est en grande partie oublié. Certains enseignent que les promesses de l'Ancien Testament s'appliquent à l'Église. Ils considèrent l'Église comme étant l'héritière des promesses de l'Ancien Testament, et que Dieu ne fera plus affaire avec la nation d'Israël. Mais laissez-moi vous dire que Dieu a encore des projets pour Israël. Monsieur James M. Stifler croit aussi que Dieu a encore des projets pour la nation d'Israël. Voici une citation de cet auteur. Il fut tacitement présumé par des interprètes chrétiens que les jours du judaïsme sont terminés, que l'intention de la loi et des prophètes fut toujours l'établissement d'une Église formée d'élus et fondée sur la foi en Jésus-Christ, et que c'est le devoir de tous les Juifs de laisser tomber leur culture distincte et de se joindre à l'Église. Les Juifs ont accusé Paul d'enseigner cela. Étrangement, ces personnes oublient que l'Église mère à Jérusalem était composée exclusivement de Juifs et qu'elle n'avait pas de païens convertis dans ses rangs. En fait, aucun n'y aurait été admis, et les quelques dizaines de mille membres de l'Église primitive étaient zélés pour la loi. C'est ce que nous lisons dans Actes chapitre 21, verset 20. Ils ont reconnu que Jésus était le Messie, et ils l'ont reçu, mais ils n'ont pas abandonné les coutumes et les espoirs de leur nation. Le christianisme a beaucoup souffert de s'être examiné, non du point de vue juif, mais du point de vue des païens convertis. C'est l'Église de Jérusalem, non l'Église d'Antioche ou d'Éphèse ou de Rome, qui donne le bon point de vue historique. Le commentaire de James Stifler sur l'Épître aux Romains. Mes amis, c'est avoir une position étroite d'esprit que de présumer que Dieu en a terminé avec la nation d'Israël. À la question « Dieu a-t-il rejeté son peuple ?» La réponse de Paul est catégorique. Loin de là. Romains chapitre 11, verset 1. Il va démontrer que les promesses que Dieu a faites à la nation d'Israël seront accomplies. Il va aussi démontrer que Dieu a fait des promesses à l'Église et qu'aujourd'hui, il appelle un peuple élu formé de Juifs et de païens pour former cette Église. C'est la conclusion à laquelle est arrivé le Concile de Jérusalem dans Actes chapitre 15. C'est le point essentiel à retenir pour bien interpréter la prophétie. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit « Homme frère, écoutez-moi. » Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai, et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines, et je la redresserai, afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui fait ces choses, et à qui elles sont connues de toute éternité. Actes chapitre 15, versets 13 à 18. Jacques est très clair. Dieu appelle un peuple qui porte son nom. Lorsqu'il aura terminé de le faire, il enlèvera son Église et se tournera de nouveau vers Israël. Cependant, Dieu n'en aura pas terminé avec les païens. La Bible nous dit, que les non-juifs sauvés entreront dans le royaume avec Israël et que le royaume de Dieu sera établi sur terre. Ce facteur historique ne peut pas être ignoré. Tous peuvent obtenir miséricorde de Dieu. Le facteur doctrinal concerne la bonne façon d'interpréter les différentes économies et la volonté souveraine de Dieu. Dans les 8 premiers chapitres, Paul a traité de la question du péché, du salut et de la sanctification jusqu'à la gloire. Dans l'économie présente, la nationalité, les rituels et les cérémonies religieuses n'ont pas d'importance aux yeux de Dieu. La seule chose que Dieu accepte des hommes, c'est la foi. N'importe qui, qu'importe sa race ou sa situation sociale, peut obtenir miséricorde auprès de Dieu. Ceci semble éliminer les distinctions que l'on retrouve dans l'Ancien Testament. Mais Paul va répondre à cette objection. Et il débute par une question rhétorique. Dieu a-t-il rejeté son peuple? Bien entendu, nous savons que Dieu n'a pas rejeté son peuple. Au début de son épître, Paul a affirmé que l'Évangile est du Juif premièrement. Romains chapitre 1, verset 16. Ce qui signifie que, chronologiquement, l'Évangile fut premièrement donné aux Juifs. Les chapitres 9 à 11 forment une section importante. Elle ne traite peut-être pas de doctrine, mais elle traite d'eschatologie, c'est-à-dire de ce qui est prophétique, les choses à venir. Cette section de la Bible démontre que Dieu n'en a pas terminé avec Israël. Maintenant, nous allons débuter le chapitre 9. Notez qu'il parle des interactions passées de Dieu avec la nation d'Israël. Le chapitre 10 traite des interactions présentes et le chapitre 11 des interactions futures entre Dieu et Israël. Si Dieu a traité avec Israël dans le passé, ce n'est pas à cause des qualités exceptionnelles du peuple ou de sa supériorité. Au contraire, Dieu a toujours agi avec ce peuple selon sa volonté souveraine. C'est avec miséricorde qu'il a interagi avec Israël ou toute autre personne, dont vous et moi. Nous entreprenons l'étude d'un sujet difficile et profond. Chers amis, débutons notre lecture de l'Épître aux Romains, chapitre 9, verset 1er. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Voici la traduction que propose J. Vernon McGee, l'auteur de nos textes, pour ce verset. Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas. Ma conscience dans le Saint-Esprit en témoigne avec moi. Cette introduction semble formelle pour un texte venant de Paul. Cependant, n'oublions pas qu'au moment où il écrivit ces lignes, de nombreux Juifs l'accusaient d'être un ennemi de son peuple. Dans le livre des Actes, chapitre 23, verset 12, nous lisons « Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant « qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. » Maintenant, Paul utilise une de ses expressions préférées. « Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. » Paul donnait l'impression d'être un traître envers sa nation, parce qu'il enseignait que les païens aussi peuvent être sauvés, et qu'ils n'ont pas à suivre tous les rituels juifs, ni toutes les traditions de son peuple. Paul exprime donc son attachement profond à son peuple. Verset 2. J'éprouve une grande tristesse, et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Il nous est impossible d'apprécier la grande souffrance de Paul à cause de sa nation. Sa patience devant la persécution qu'elle lui a fait subir en est la preuve. Il savait ce que les Juifs ressentaient envers le Seigneur Jésus et le christianisme, car il avait déjà partagé ces mêmes sentiments dans le passé. Il avait été un pharisien, un chef de sa nation, et maintenant il désirait ardemment qu'il vienne au Seigneur Jésus comme il l'a fait. Israël a rejeté son Messie. Israël a rejeté le Dieu Saint qui a créé l'univers, le Dieu miséricordieux qui offre le pardon des péchés. Pour de nombreux individus, ce choix signifie la perdition pour l'éternité. Paul ne peut qu'être énormément attristé. Son peuple rejette le Dieu bon qui est amour. Verset 3. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents, selon la chair. Voici la paraphrase de l'auteur de nos textes, de J. Vernon McGee, pour ce verset. Je souhaitais, mais c'était impossible, être anathème et séparé, réservée pour la destruction de Christ, pour mes frères, mes parents, selon la chair. » Ce verset est difficile à traduire. Si vous désirez une traduction libre, Megui en propose une aussi. « Autrefois, j'étais anathème et séparé de Christ, comme mes frères, mes parents, selon la chair. » En fait, Paul est difficile à comprendre. Au chapitre 8, Paul vient d'affirmer que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifestant Jésus-Christ. Maintenant, Paul dit qu'il voudrait être anathème. C'est un souhait impossible à exaucer. « Paul, tu viens de le dire toi-même. » Donc, ce n'est qu'une manière de parler. Tu ne peux être sincère en affirmant cela. Cependant, l'apôtre Paul est toujours sincère. Il ne parle pas inutilement. Donc, je crois qu'il dit, « J'étais autrefois anathème et séparé de Christ comme mes frères. Je sais que je ne puis être rejeté, et je désire qu'ils connaissent Christ et qu'ils se retrouvent dans la même position que moi. » Il est difficile d'évaluer l'intensité de l'amour chez un Paul ou un Moïse. Moïse a exprimé les mêmes sentiments dans Exode chapitre 32, versets 31 et 32. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. » S'il avait pu, Paul aurait donné sa vie pour son peuple. Il aurait accepté la perdition éternelle pour les siens. Cependant, cela était impossible. Seul le Seigneur Jésus peut racheter une âme en mourant pour elle. Versets 4 et 5. Ils sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances et la loi et le culte, et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses. Dieu béni éternellement. Amen. Paul soulève une question. Qui sont les Israélites? 8 éléments identifient un Israélite. Les voici. L'adoption, la gloire et l'alliance appartiennent à Israël. Les 3 premiers, l'adoption. L'adoption se fait à l'échelle nationale. C'est la nation qui fut adoptée et non les individus. La seule nation que Dieu a appelée son fils est la nation d'Israël. Tu diras à Pharaon, « Ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. » Exode, chapitre 4, verset 22. Dans Deutéronome, chapitre 7, verset 6. « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi, pour que tu sois un peuple qui lui appartienne, entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. » Est-ce que Dieu était sérieux ou il ne l'était pas? Si vous concluez qu'il ne l'était pas, alors pourquoi croire en Jean, chapitre 3, verset 16, qui parle de l'amour de Dieu envers tous les hommes? Les deux promesses se trouvent dans le même livre, dans la Bible. Moi, je crois Deutéronome, chapitre 7, verset 6, et je crois aussi en Jean, chapitre 3, verset 16, qui dit, « Quand Israël était jeune, je l'aimais, et j'appelais mon fils hors d'Égypte. » Ça, c'est la citation d'Osée, chapitre 11, verset 1er. Dieu parle de la nation, non d'un individu, comme étant son fils. Il n'a jamais dit cela d'un autre peuple. L'adoption est le privilège d'Israël. Deuxièmement, la gloire. Cette gloire est la présence physique de Dieu, telle qu'il l'a manifestée dans le tabernacle et plus tard dans le temple. Exode, chapitre 40, verset 35, nous enseigne ceci. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation, parce que la nuée restait dessus, et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Une seule nation a connu la présence visible de Dieu, et c'est la nation d'Israël. Aujourd'hui, nous n'avons pas la présence visible de Dieu, même dans nos églises, et nous devons nous rappeler ce fait. L'Église n'a pas la présence visible de Dieu, parce que le Saint-Esprit habite dans les croyants, et il révèle le Seigneur Jésus qui est vivant et assis à la droite de Dieu. Troisièmement, l'alliance. Dieu a fait des alliances avec la nation d'Israël, et il les respectera. Certaines sont déjà accomplies, donc choses du passé. Dieu a dit qu'il ferait d'Israël une bénédiction pour tous les peuples. Il a promis à David que le Messie descendrait de lui. La venue du Seigneur Jésus était l'accomplissement de ses promesses de l'alliance. Dieu a fait des alliances avec Israël, avec Abraham, David et la nation. Il n'en a pas fait telle avec les autres nations. Les alliances appartiennent à Israël. Nous verrons à la prochaine émission les 5 autres éléments qui identifient un juif. Cependant, permettez que je vous pose 3 questions. Seul Israël fut adopté à l'échelle nationale, mais Dieu adopte des individus de toutes les nations dans sa famille. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous pouvons crier « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voici cette première question. Êtes-vous adopté par Dieu? L'Esprit en vous, vous confirme-t-il votre adoption? Sinon, je vous invite à lire les Écritures, afin que l'Esprit vous révèle le Seigneur Jésus. Si Dieu ne manifeste pas sa présence visible dans nos églises, c'est parce que l'Esprit de Dieu habite dans les croyants. C'est l'Esprit qui nous confirme que nous sommes enfants de Dieu, et c'est avec sa puissance que nous marchons dans la sainteté plutôt que dans la chair. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Avez-vous l'Esprit de Dieu en vous? Voici la deuxième question. Sa présence se manifeste par l'obéissance, car l'Esprit nous donne la force nécessaire pour accomplir les désirs de Dieu plutôt que ceux de la chair. Dieu a fait une alliance avec Israël. Il avait promis à Abraham de faire une grande nation de sa postérité. Et il a promis au roi David que le Messie descendrait de lui, donc que son trône serait affermi pour toujours. Dieu nous propose aussi une nouvelle alliance. Voici ma troisième et dernière question. Acceptez-vous cette alliance de Dieu, cette alliance avec Dieu? Écoutez ce texte. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car, après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux », après ces jours-là, dit le Seigneur, « je mettrai mes lois dans leur cœur, et je les écrirai dans leur esprit », et, il ajoute, « et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. » Citation de l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, versets 10 à 16. Voilà les termes de cette alliance que Dieu nous offre aujourd'hui. Jésus s'offre en sacrifice pour vos péchés. Son Esprit habite en vous, afin que nous puissions suivre ses lois. Nous recevons ce merveilleux cadeau par la foi. Acceptez-vous cette alliance avec Dieu? C'est entre vous et lui. Cela se passe dans l'intimité, dans une relation personnel, entre Dieu et toi. Il attend maintenant ta réponse. Il s'est manifesté, il t'a révélé ces choses, maintenant il attend que tu répondes soit par un oui, en acceptant, ou soit par un non, en rejetant, en refusant ce qu'il t'offre aujourd'hui. Et en subissant également toutes les conséquences. Si tu l'acceptes, tu as le pardon de tes péchés, l'assurance de la vie éternelle, mais si tu refuses, tu demeures dans tes péchés et par le fait même dans une situation de perdition éternelle. Je t'invite à répondre positivement à cette offre que Dieu te fait présentement. Qui sait, c'est peut-être la dernière fois que tu entends cette invitation venant du Dieu créateur, du Dieu qui veut devenir ton sauveur et Seigneur de ton existence. Question primordiale, question d'éternité. Je t'encourage, ami, à mettre en règle, une fois pour toutes, ta vie avec Dieu. Chers amis, prochaine émission, Romains chapitre 9, versets 4 à 24.
Merci, Régent. On a bien vu aujourd'hui que Dieu n'a pas rejeté son peuple, le peuple d'Israël. On a vu aussi que n'importe qui, qu'importe sa race ou sa situation sociale, peut obtenir miséricorde auprès de Dieu. N'est-ce pas merveilleux? Dieu est amour. Quand on lit dans l'Évangile de Jean que Dieu a tant aimé le monde, on sait qu'il parle de tout le monde, des Juifs, des Grecs, des Africains, des Nord-Américains, des gens de tous les pays, de tous les rangs sociaux, de tous les degrés d'intelligence, sans exception. Car Dieu a tant aimé Caro, celle qui vivait dans la débauche, dans le péché. Car Dieu a tant aimé Régent, qui lui aussi était un pécheur perdu autrefois. Car Dieu t'a tant aimé, mon ami, qui que tu sois. Il nous a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, et ça c'est toi, mon ami, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, n'aille pas brûler dans les flammes éternelles, mais qu'il ait la vie éternelle, une vie parfaite dans la présence du Dieu parfait, celui qui sauve parfaitement tous ceux qui mettent leur confiance en son Fils seul, pour recevoir le pardon de leurs péchés et le don gratuit de la vie éternelle. Mon ami, tu es ce quiconque. Ne pense pas que tu as trop péché, que tu en as trop fait, et que Dieu ne pourrait jamais te pardonner. Dieu veut te pardonner. C'est pourquoi Jésus frappe à la porte de ton cœur en ce moment. Il te dit dans le 3e chapitre de l'Apocalypse, au verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Mon ami, le péché t'a éloigné de Dieu. Toute désobéissance à la parole de Dieu est péché, mais Dieu veut te pardonner. C'est pourquoi il frappe à la porte de ton cœur en ce moment. Ouvre la porte. Tu ne sais pas si tu vivras demain. Il sera peut-être trop tard. Ouvre la porte maintenant. Laisse Jésus entrer. Il veut te pardonner. Repens-toi. Détourne-toi de tout ce qui est péché dans ta vie. Reçois le pardon que Jésus t'offre. Il a payé ta dette en entier en mourant sur la croix. Et maintenant, tu n'as qu'à recevoir Jésus comme sauveur, comme Seigneur, comme maître de ta vie. Il t'offre la vie éternelle. Fais-lui confiance. Dis-lui, « Seigneur, sauve-moi. J'ai fait cet acte de foi il y a plus de 27 ans et il m'a sauvé. Il m'a donné la vie éternelle. Et maintenant, c'est à toi qu'il offre ce beau cadeau. Entends-tu sa voix? » Et toi, mon ami, toi qui mènes une bonne vie, toi qui fais plein de bonnes œuvres, j'ai une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle pour toi. Paul nous a dit dans son épître aux Romains au chapitre 3, verset 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais la bonne est au verset 24, où il nous dit qu'on est gratuitement justifié par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alors, qui que tu es, reçois Jésus maintenant.
Bien oui, chers amis, nous vous offrons des cours bibliques par correspondance.
Une minute, Régent. Est-ce que c'est compliqué, ces cours-là? Parce que tu sais, moi, je suis pas très, très intellectuel.
Hein? Rien de plus facile, Caro.
Oui.
Les gens n'ont qu'à prendre la Bible qu'ils ont à la maison,
oui,
de nous commander ces petits livrets, et par le fait même, en quelques minutes seulement, ils auront répondu à ces simples questions.
Est-ce qu'il y a beaucoup de
par cœur? En rapport avec le texte qu'ils auront lu. Du par cœur. Quasiment pas de par cœur.
Oui, c'est intéressant.
C'est juste des questions, des qui, quoi, comment, pourquoi.
Pour mieux connaître Dieu.
Approfondir le texte biblique afin qu'il puisse nous parler et même nous interpeller. Car son auteur, Dieu, est vivant.
Ah, ça, j'en suis certaine, Régent.
Et il a des choses très importantes à partager avec nous.
J'ai le goût de m'inscrire.
Voilà le but, le pourquoi nous vous offrons ces cours par correspondance, à partir de chez vous. Pour toute correspondance.
Alors, vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
En composant le 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647, ou via courriel
à www.radioespoir.ca. Et aussi, on a une adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34 143 Charlebourg, Québec, G1G 6P2. À demain!
Oui!
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.